est moins cher dans le parti couvert. Allez, allez,
allez. Allez, 3 plus 5 gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Ah bien le bonjour les amis, vous êtes ici chez vous, hein, vous le savez, ravi de vous retrouver pour cuisiner les saisons et passer notre alimentation à la casserole. Un petit tour dans les bois avant de cuisiner les champignons. Comment devenir incollable sur la pasta italienne? Je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche samedi. Et évidemment, je ne suis pas seul, Yves Candebord, bistronome en chef, est avec nous. Il va remettre la bouteille de lait cru au centre de la cuisine. Bonjour Yves.
Ravi d'être là Laurent.
Bah ravi de vous retrouver. Entre les dégustations et les foires au vin, il est toujours bon de se faire conseiller. Suivez le guide, il s'appelle Olivier Pouls.
Bonjour Olivier. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Regardez, le tire-bouchon est prêt.
Et les guides aussi, il y a du boulot. Hein,
exactement.
Vous allez nous aider. Marion Sauveur aiguise sa plume pour son journal de la cuisine. Et puis Jean-Luc Petit-Renaud va croquer le portrait d'un paysan de son enfance. Olivier Rollinger, le chef cuisinier corsaire de Saint-Malo, sera des nôtres. Il nous parlera de sa révolution délicieuse. À l'heure du plat du jour, eh bien voilà, vous savez tout, il n'y a plus qu'à. En route, joyeuse troupe. Alors, avant de partir au marché, hein, comme tous les samedis, eh bien, retrouvons ensemble notre goût de la semaine. On va commencer par vous, Yves Candebord. Allez, faites marcher votre machine à remonter le temps. Quel est le goût qui a marqué votre semaine?
Eh bien, c'est un goût que vous pouvez retrouver sur le marché.
Ah,
c'est un produit de saison, la pêche de vigne.
C'est la fin, oui, oui.
On arrive à la fin, pratiquement. On peut en trouver encore pendant une quinzaine de jours. C'est ces fameuses pêches-là qu'on voit, qui sont bien dodues à l'intérieur, très, très couleur grenat.
C'est magnifique.
C'est magnifique, ça a un goût toujours beaucoup plus acidulé qu'une pêche classique. Pourquoi on appelle ça des pêches de vigne? Parce qu'en général, c'est les vignerons qui plantaient ces pêchers dans leurs vignes, parce que dès qu'il y avait une maladie, c'était d'abord les pêchers qui étaient malades. Ça leur permettait justement de pouvoir instantanément soigner leur vigne.
Le bon sens paysan. Et
toujours le bon sens paysan.
On en parlait la semaine dernière avec Christine Ferber qui adore la confiture de pêche de vigne et qui est en train d'en faire dans sa belle Alsace.
Là. Alors, je suis un amoureux de la confiture de pêche de vigne, mais alors moi, je ne fais pas de la confiture, je fais de la compote. Parce que je descends vraiment le sucre au maximum,
oui,
donc je n'ai pas le droit à l'appellation confiture. Mais par contre, je trouve que le fruit et le côté suave de la pêche réapparaît et est très agréable.
Ah, oh, il en parle bien. Olivier Pouls, votre goût de la semaine, cher ami.
Alors moi, j'ai déjeuné hier avec un collègue et néanmoins ami, l'ami Mathieu Noël.
Ah oui, qu'on retrouve tous les jours de 16h à 18h avec sa belle équipée sauvage.
Exactement, et j'ai le plaisir de l'accompagner, de livrer une recette dernière minute tous les jours. Et donc nous sommes allés déjeuner et on est dans une période où l'anniversaire de Mathieu approche et on a bu un vin de son année de naissance, 1982.
Il est jeune le gaillard.
Il est jeune.
Il est jeune le bougre.
C'est un gamin.
Ah oui, c'est un
vin nouveau.
Oui, oui.
Et alors, les vieux Bordeaux, quand ça, quelques années quand même, c'est quand même vraiment quelque chose de fantastique. On comprend pourquoi le monde entier est fasciné par ces vieilles bouteilles de Bordeaux, de ces grands millésimes, parce qu'en plus, il a la chance d'être né dans un très grand millésime. Et ça incite à quand on achète un peu de vin, en mettre un peu de côté, à se constituer une cave et à garder ses vins. Parce qu'acheter aujourd'hui du 82, évidemment, c'est très compliqué. Mais les très beaux 2015 ou 2016 d'aujourd'hui, dans 20 ou 30 ans, ils seront fantastiques.
Mathieu Noël, très bon cru de 16h à 18h sur Europe 1. Mais oui, évidemment, on est là pour parler des copains aussi. Moi, mon goût de la semaine, c'est la courgette de Nice. La petite courgette vert clair, vous savez, qui est cueillie vraiment petite et pas trop grosse, sinon elle serait pleine de pépins. J'adore sa fraîcheur, j'adore la densité de sa chair et ce petit goût d'amande. C'est mon fils qui avait envie de légumes ces derniers temps, qui me dit « Papa, fais-moi des courgettes ». Donc je lui ai fait plein de courgettes vertes claires de Nice avec des oignons rouges comme ça et un petit peu de parmesan juste à la fin et de l'ail. C'est tout simple.
Il était content ?
Mais il était content. Mais j'arrête pas de faire des courgettes. Voilà, courgettes vert clair de Nice, on est en plein dans la saison.
Vous avez bien raison parce que moi je trouve qu'en plus elles ont pratiquement un côté fruité. C'est vraiment des légumes qu'on fait manger aux enfants. Parce qu'ils ont presque l'impression de manger des fruits.
Cuisinons les amis, cuisinons. C'est l'heure d'aller au marché justement. Alors quelques jours avant le début de l'automne, l'été bat toujours son plein, vous le voyez. Alors Frédéric Michel, qui est notre correspondant dans le sud, a pris la température du marché au cours Lafayette à Toulon. Fruits et légumes locaux répondent présents pour votre plus grand plaisir les amis, écoutez.
J'ai acheté des tomates, des pêches et des melons qui sont très bons.
Ça finit maintenant les melons.
Les melons, c'est la dernière.
Ben là, on a un tas magnifique. Hein. On a envie de venir sur le marché, de faire son marché.
Des nectarines, des figues de Solliès, des fruits pour les confitures, des abricots, des prunes. Alors des fois, il n'y en a plus. Des fois. Mais il y en a encore, mais pas beaucoup. Quoi.
J'ai pris des tomates et une betterave. Et des fruits, melons, pêches et abricots. Puis là, tout est le climat, la température, on est en plein été encore. On apprécie, ça rafraîchit. et c'est très bon pour la santé.
Et vous savez déjà ce que vous allez faire avec tous ces produits?
Les tomates, je les ferai peut-être à la provençale ou en salade. Et les fruits, ben, on les mangera en nature.
Allez, deux ananas 2 euros, deux concombres 1 euro, ça gagne pas, ça démarre.
Le mois de septembre est un mois magnifique pour nous. Nous, nous habitons ici, hein. Vous voyez, on a nos commerçants qui nous conseillent. Là, je suis venue, j'avais l'intention de prendre autre chose. Il m'a conseillé de prendre ces prunes jaunes de Sicile qui sont excellentes. Il nous les a faites goûter et c'est ça qui est la convivialité. Regardez les tomates qu'il a dans son étal, quoi, c'est magnifique.
Ah, la musique de Provence, on y est. Alors c'est drôle parce qu'on a écouté, c'est en septembre, du Toulonnais Gilbert Bécaud la semaine dernière. Et bien on y était là sur les marchés de Provence, cher à Bécaud. C'est une très belle saison pour cuisiner, Yves Candebord.
Oui, c'est une très très belle saison. C'est vrai qu'on est pratiquement entre les deux saisons, entre l'été et l'automne qui arrivent. Et cela, dans le sud, on a la fin de saison et ses produits, ses légumes, ses fruits
les
d'été
tomates molles,
qui sont à
les
maturité.
Courgettes,
Laurent,
les aubergines.
J'ai envie de vous dire, c'est pratiquement l'une des plus belles saisons pour
la
tomate.
Mais j'adore.
On a tendance souvent à manger la tomate en juin, en juillet, c'est vraiment août, septembre, c'est là qu'elles sont les plus charnues.
C'est maintenant.
Voilà, qu'il y a moins d'eau dedans, où il y a plus de chair.
Alors, il y a des champignons aussi, hein, en ce moment. Morilles des pins, pieds de mouton, trompette de la mort. Les champignons nous appellent dans les bois, de la cueillette à l'assiette. On va vous donner envie d'aller aux champignons, justement. Ce sera juste après ça. A tout de suite sur Europe 1. Et bon samedi matin, si vous vous réveillez, si vous avez fait une grasse mat. Ben voilà, il faut faire à manger maintenant.
Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Je reçois gentiment, c'est agréable. Je reçois pour affaire, donne pas des matinées enfantines.
Ben oui, nous on reçoit gentiment, pas pour affaire, mais pour manger.
Le
oui,
petit pop, là.
Hein, le petit tire-bouchon, ça fait toujours plaisir. Promenons-nous dans les bois, tiens, pendant que les champignons sont là, à condition que la météo soit propice, ouais. Bien entendu. Alors, avec la sécheresse, toutes les régions ne sont pas égales, elles ne sont pas fournies en champignons, hein, Olivier.
Non, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Les cèpes sont presque introuvables dans une grande partie
mais
de la France.
On croyait que ça allait être une grande année, mais je crois qu'on s'est gouré.
Il y a eu une petite pousse, il y a une dizaine de jours, on en a trouvé, puis là, de nouveau, il n'y a plus grand-chose. Ça pourrait revenir. Hein,
oui, parce qu'on annonce des pluies demain. Il va y avoir des averses ce dimanche. Yves Candebord, on va pouvoir remettre les bottes, peut-être.
Alors, vous savez ce qu'on dit du sud-ouest? Parce que souvent, les gens me demandent quand c'est qu'il fait beau dans le sud-ouest. Je leur dis, il fait tout en bois après la pluie.
Ben
on
oui.
est une terre de champignons. C'est vrai que nous, dans la même journée, on peut avoir 4 temps différents.
Regardez son œil, je sens que lui, il a plein de champignons, il a plein
coins.
De coins.
Je suis sûr qu'il
connaît
des coins.
Il n'est pas du tout concerné par notre histoire de manque de champignons.
Alors, je peux vous assurer que non. Je reviens de 2 jours à marcher dans les Pyrénées, en randonnée. On a trouvé de la girole,
on a
trouvé du cèpe, on a trouvé de la trompette. Mais c'est vrai que le champignon pousse après la pluie. Et on arrive, si on est un peu malin, à le voir autour des arbres, à aller sous les fougères. L'odeur, rien qu'en marchant, si vous faites un peu attention, vous les sentez, ils sont à vos pieds.
Vous me faites ma transition parce que nous partons en balade en Ariège avec Benjamin Péter, qui est le correspondant d'Europe 1 dans la région. On va dans les vallées du Couseran et nous allons faire une jolie balade, une belle cueillette avec Mariana Murento qui organise des cueillettes de champignons toutes les semaines. Chaussez les bottes et le panier, c'est parti.
Allez, vous avez trouvé quelque chose là? Allez, on arrive, qui c'est qui m'appelle?
Oh, il est beau.
Venez voir tous. Alors ça, c'est une orange, la manite des Césars. Vous voyez, il y a une volvansac. Alors les gens peuvent la confondre avec la manite tumouche. Dans la manite tumouche, les lames sont blanches. Mmh. Tandis que là, elles sont jaune-orangées.
Bon, alors ça, c'est okay. Délicieux.
Ça, c'est fameux. C'est la meilleure après la truffe.
Ça ne mange pas.
Non, c'est pour ça que tu la nettoies et la prochaine fois que tu en bois...
Il faut nettoyer ça.
Voilà, tu enlèves l'œuf, tu laisses sur place.
On laisse ça.
J'ai mes petits informateurs à droite à gauche. Il a plu énormément mardi, je sais combien il est tombé, donc je suis venu là aujourd'hui.
Ouais,
hier j'étais occupée. Oui, je savais qu'on allait trouver des choses. Quand je vous ai dit que c'est pas en courant qu'on en trouve le plus. Ah, tu râles, hein? Vous allez trop vite, on se trouve des girolles. Vous marchez comme des voleurs, là. Le plus grand plaisir, souvent, c'est de les trouver. Je leur dis un peu, regardez là, il y en a ramassé. Je me régale hein, de voir les gens contents, tout ça. Je trouve que le plaisir, c'est ça. Et ensuite, pour que tout le monde soit satisfait, que tout le monde en ait un petit peu dans le panier. Voilà, et ça me plaît. De voir les gens satisfaits, contents quand ils en trouvent là, les yeux lumineux. Moi, je suis contente. Et après, ils se font plaisir aussi. Hein.
Mais oui, le plaisir, c'est de déguster aussi. Merci Mariana et merci Benjamin Péter pour cette belle cueillette. C'est un joli reportage d'ambiance, Olivier Pouls.
Et quelle chance d'avoir trouvé des oranges, cette fameuse Amanie des Césars, un champignon d'une finesse exquise qui se présente comme un œuf. Et on le mange cru, On en fait des carpaccio. Ça se cuit pas très bien comme champignon, mais cru, c'est d'une finesse extraordinaire.
Et les girolles, une belle petite fricassée de girolles, Yves Condebord. Ouais. Alors, on met de l'ail ou pas avec les girolles dans la fricassée?
Vous mettez de l'ail si vous avez envie d'en mettre.
Ben voilà,
voilà, c'est,
ça,
c'est ça l'important. C'est vrai que l'ail, moi, je l'aime, ça relève, ça redonne de la puissance, mais ça peut aussi dénaturer. Il faut le faire avec parcimonie. Mais moi, mon préféré, c'est la trompette de l'amour.
Ah, j'adore ça, ce champignon noir en forme de trompette. Là, voilà, c'est une chanterelle. Hein,
c'est comme une chanterelle, on l'appelle trompette de l'amour, parce que là, c'est vrai qu'elle a un bout qui ressemble un peu à une trompette. Elle est noire. C'est un peu vers, par rapport à l'amour. Et aussi, il y a le côté saisonnalité. On les ramasse en général vers le mois de novembre, décembre, par rapport à la Toussaint. Mais c'est un champignon qui est très délicat à ramasser, qui est très difficile, parce qu'il se confond énormément. Mais quand vous en trouvez une, en général derrière, il y a la compagnie qui suit.
Vous en faites quoi, vous, Yves?
Alors, ce que j'adore faire avec ça, je me régale à faire ça, je prends mes trompettes de l'amour, je les nettoie. Attention, bien sûr, de ne pas les mettre dans un bain d'eau. Parce que là, vous allez complètement les rendre spongieuses. On les nettoie soit avec une petite brosse ou alors un petit sopalin humidifié. Après, je prends une aiguille avec du fil, je fais un chapelet de trompettes de l'amour que je peux entrer dans ma cave. Je les laisse sécher comme ça pendant 4 à 5 semaines. Une fois qu'elles sont bien sèches, je les mets au mixeur, je fais de la poudre et de cette poudre, je m'amuse avec. Alors ça peut être sur une salade d'herbe, juste saupoudrée à la dernière minute. Ça va amener de la puissance parce qu'étant donné qu'elles ont,
elles sont concentrées en goût.
Sinon, je prends un poisson, mais un poisson fin comme un merlan. Je passe un peu d'œuf battu dessus au pinceau. Je trempe mon merlan.
Ah, vous le panez ?
Je le panne, je trempe mon merlan dans ma poudre.
Il est tout noir alors ?
Il est tout noir, je le poêle dans les retours. Et j'ai une croûte noire puissante en champignons. Ou sinon, encore plus simplement, une purée. Juste avant de l'envoyer, je prends une cuillère à café de cette poudre. Je la dépose dessus et je marre ma purée.
Eh ben, dites
donc. Ça donne ce côté forestier, le sous-bois dans la purée, le sous-bois avec le poisson. Et en plus, visuellement, ben Laurent, ça a de la gueule.
C'est un festival, ça.
Deux couverts pour ce midi.
Oui, c'est ça, sans problème. Moi, je les sèche aussi, les trompettes de la mort, au four entre deux plaques et je les mets un petit peu façon chips par-dessus un velouté de potimarron, par exemple.
Ouais, c'est très, très
ça
bon.
Ça fait de jolis contrastes. Alors, on va remercier Magali Barre aussi, qui est une ramasseuse et une chercheuse en champignons, qui est maraîchère à Paris, sur certains marchés du 7e et 15e arrondissement. Elle nous a apporté des champignons et on vient de se faire une fricassée, là, avec des girolles et des trompettes de la mort. Il y a un petit peu de persil. Pas trop d'ail,
Et puis surtout, ils n'ont pas rendu trop d'eau. C'est assez bien cuit, parce que le problème avec les champignons,
exactement,
c'est que parfois, ça rend un peu d'eau dans la casserole, et notamment les girolles, ce n'est pas toujours facile à cuire. Il faut enlever l'eau, les remettre à cuire, ainsi de suite.
Mais cette année, comme on est sur une saison très sèche, c'est vrai que les champignons ont très peu d'humidité pour une fois.
De la fourche à la fourchette, l'actualité de nos assiettes est variée. On y revient avec le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Ce sera juste après ça. Bon samedi matin.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Agriculture, gastronomie, tendances, nouvelles adresses, vous le savez, on parle de tout à la table des bons vivants et rien n'échappe, vous le savez, au regard affûté de Marion Sauveur. La voici justement avec son journal de la cuisine. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
En pleine forme Marion?
Mais oui, toujours.
Votre petite musique de votre joli journal, c'est parti. Une cantine de collège 100% bio, les chefs français réunis à l'Élysée et la pizza en fête à Marseille, c'est le menu du journal de la cuisine. Alors, une première cantine vient d'être labellisée 100% bio. Ça fait plaisir, ça.
Et oui, c'est celle du collège de Belvès, en Dordogne. Elle a reçu le label EcoCert en cuisine niveau excellence. Il garantit l'engagement 100% bio de l'établissement et son approvisionnement en produits locaux. Et bravo également à la cuisine centrale de Bordeaux et Mérignac. Elle a décidé de bannir tous les contenants alimentaires en plastique à partir du mois d'octobre.
Comme quoi, quand on veut, on peut. Et pour reprendre une citation d'Olivier Rollinger, qui sera notre invité tout à l'heure, construisons moins de ronds-points dans nos communes et puis donnons un peu plus d'argent aux cantines pour faire du bio, par exemple. 200 grands chefs français ont déjeuné à l'Élysée mardi, Marion.
Et oui, ils ont été reçus par le président de la République, Emmanuel Macron. En cuisine, le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, avait une belle brigade composée des étoilés Stéphanie Lequelec, Régis Marcon, Mauro Colagreco, Laurent Petit, Christophe Baquier et Jessica Prialpato, élue meilleure pâtissière du monde. Au menu notamment des cèpes, des fleurs de courgettes, mais pas de pâtes. Elles sont pourtant à la carte des bons vivants aujourd'hui.
Oui.
Dans
Mamma
quelques instants, vous allez parler de pasta, Laurent, avec l'italienne Alessandra Pierini.
Ah oui, un vrai cours sur les pâtes, vous allez être incollable, c'est le cas de le dire. Marseille se met à l'heure italienne jusqu'à demain soir, Marion, pour le premier festival dédié à la pizza.
Et ça s'appelle Mania Pizza Provence, ça se passe sur le Vieux-Port. 15 grands pizzaiolos ont installé leur cabanon avec leur four à bois, leur camion à pizza, le tout face à la mer. Ils vous donneront tous les secrets pour faire une pizza et vous pourrez bien sûr les déguster.
Alors Marion, c'est l'heure de votre cerise sur le gâteau maintenant et aujourd'hui, vous nous parlez d'un site qui classe les restaurants en fonction de leur démarche éco-responsable, c'est
oui,
ça ?
Oui, je l'ai repéré en fait cet été, ça s'appelle Écotable. C'est un site qui permet d'identifier les restaurants engagés dans une démarche environnementale, une sorte de guide gastronomique qui classe les restaurants en leur attribuant une, deux ou trois écotables. Ce sont en fait des labels. Ouais. Ils sont distribués en fonction de leurs engagements environnementaux, que ce soit à la fois dans l'assiette ou tous les autres impacts, énergie, eau, gaspillage alimentaire et les déchets par exemple.
C'est quel type de restaurant alors ?
Alors il y a 45 restaurants aujourd'hui. Vous avez à la fois des restaurants gastronomiques ou bistronomiques, mais aussi des restaurants à tapas ou des cuisines pour le midi. Il y aura 90 restaurants à la fin de l'année a priori.
Ouais, c'est pas mal. Ça marche comment sur le site alors ?
Alors vous vous géolocalisez tout simplement. Ensuite vous avez des filtres locavore, veggie, bio. Et une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous avez une liste de restaurants qui sort avec l'histoire du restaurant, du chef et de sa démarche éco-responsable.
Eh ben merci Marion et Yves Condebord a bu vos paroles. Hein.
Tout à fait.
Hein,
c'est bien. Très intéressant.
On prend ça. Merci Marion Sauveur et
avec
à plus
plaisir.
Tard. Alors ce matin, on va parler de la pasta, hein, la vraie, celle qui se déguste al dente. Je reçois Alessandra Pierini qui est propriétaire de l'épicerie Rap à Paris, une des meilleures ambassadrices de la gastronomie italienne en France. Elle vient de sortir un joli livre avec Sonia Esgulian aux éditions de l'Épure, La pasta Allegra. Bonjour Alessandra.
Bonjour.
Qu'est-ce
Bonjour.
Que c'est la pasta Bonjour. Allegra? Buongiorno.
Buongiorno.
Ah, l'accent italien, mais tout de suite. Oh,
qu'est-ce que c'est
ah,
bon.
On en voyage, on y est.
Mais c'est pour ça qu'on a, on a mis un titre italien, la pasta Allegra, donc la pâte joyeuse, parce que c'est comme ça qu'il faut la voir. C'est, en Italie, c'est tout un art de vivre. C'est quelque chose que nous avons vraiment à la base de notre cuisine et qu'on essaie de sublimer au maximum à partir de la cuisson jusqu'aux sauces. Et pas vraiment aux accompagnements, comme on fait en France, parce que c'est vraiment un plat
oui,
principal.
Ben c'est ça, exactement. On va en parler tout à l'heure. Coquillette ou spaghetti
En tant qu'Italienne, spaghetti.
Ben oui, voilà. Non, je vous pose la question parce que la coquillette, c'est la deuxième pâte la plus mangée en France après les spaghettis, justement.
Absolument.
La compète.
Qui n'existe pas en Italie. Hein,
non, exactement. Il n'y a pas de coquillettes en Italie. C'est la rentrée des étudiants. Le mois de septembre, en général, avec les taxes, les impôts, allège un petit peu notre porte-monnaie. C'est une bonne raison de se mettre à la pasta parce qu'elle est économique, la pasta. Elle est
Absolument.
Généreuse et économique.
Tout à fait. Même si on choisit une pâte artisanale un petit peu plus chère, avec un paquet de pâtes de 500 grammes, on peut faire 4 bonnes assiettes de pâtes. Donc après, il faut juste choisir un peu son accompagnement et c'est vrai que ça reste un plat très accessible.
Alors c'est quoi la vraie pasta italienne ? Parlons du choix déjà de la pâte.
Déjà, il faut essayer. Nous avons maintenant beaucoup plus d'indications sur les paquets. Surtout, on choisit, nous on parle dans notre livre avec Sonia, d'une pâte IGP. Donc ce sont des pâtes qui ont un terroir. Ce sont les pâtes qui sont produites à Gragnano, d'indication géographique protégée, qui est le berceau anciennement de la pâte sèche en Italie.
Ce moule de blé dur.
Ce moule de blé dur, de très bonne qualité. Il faut qu'il y ait minimum 13% de protéines dans la pâte. C'est pour garantir une bonne tenue. Une bonne cuisson aussi, et qu'après elle puisse bien s'enrober de sauce dans l'assiette.
Il n'y a plus beaucoup de gens qui font ces pâtes en Italie. Ils sont combien, 14, c'est ça?
Là, à cet endroit-là, à Gragnano, il y a 14 pâtissiers artisanaux. Justement, nous étions soutenus par un de ces pâtissiers, qui est la maison Garofalo, qui fait partie donc de cette sélection assez rare IGP.
Si je ne trouve pas cette marque-là au supermarché, je me trouve devant le stand de pâtes qui est de plus en plus grand. Mm-hmm. Quelle pâte je choisis ? C'est quoi la petite indication qui nous permet de choisir des bonnes pâtes ? C'est déjà la couleur peut-être ?
Déjà, c'est la couleur. Ce sont des pâtes qui sont aussi bien la couleur assez claire. Si c'est des pâtes à la semoule de blé dur, il faut bien faire attention. Et à la catégorie semoule de blé dur avec l'eau ou éventuellement semoule de blé dur avec des œufs. Donc là, elles seront bien sûr plus jaunes, mais s'accompagne avec d'autres sauces. Et ce n'est pas la plupart qu'on trouve dans les supermarchés. Et après, une autre catégorie, c'est la pâte fraîche et c'est autre chose qu'on trouve au rayon frais.
Sinon, dans les épiceries italiennes, on va pouvoir trouver des pâtes artisanales tranquilles.
Bien sûr, sans problème. Et on en trouve même ici, dans les grandes surfaces. Maintenant, on essaye de choisir une pâte, justement, comme on disait, avec un bel aspect. Et on a minimum 12% de protéines, c'est marqué sur les paquets.
Alors, après avoir bien choisi ces pâtes, il faut les passer à la casserole. C'est ce que nous allons faire juste après ça. Ne bougez pas, quelle pâte pour quelle sauce? On va tout vous dire. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1.
Le cuisinier secoue les nouilles. Je répète, le cuisinier secoue les nouilles.
Laurent Mariotte.
Eh ben oui, nous aussi, on secoue les nouilles ce matin.
On dit non.
Dans la vie, il y a des sujets importants tels que la géopolitique. l'économie, mais il y a aussi l'art de la pasta. Vous entendez les pâtes, justement, de belles pâtes bien claires. On en parle justement ce matin avec Alessandra Pierini de l'épicerie Rap à Paris, qui a sorti un très joli livre aux éditions de l'Épure, La pasta allegra, avec Sonia Esgulian. Alors, des rigatoni, des penne, des linguine, il existe des dizaines de pâtes différentes en Italie, Alessandra. Lesquelles ont vos préférences, tiens?
Moi, j'adore. Après, ça dépend quelle sauce. Avec quelle sauce on les accompagne, c'est très important. Si je mange des pâtes al pesto, j'aime bien des spaghettis, par exemple.
Ouais. Elles accrochent bien le pesto.
Les pâtes longues, en général, elles sont faites pour les sauces assez légères.
Les linguinés.
Fruits de mer, linguine. Ouais. Super, ça peut être fruits de mer avec une sauce pas trop lourde. Si par contre, on veut manger des pâtes en sauce, ça ne sera pas en Italie des spaghettis bolognaises, parce que ça n'existe pas non plus. Ce sont des tagliatelle à Bologne qu'on mange avec la sauce, le ragoût.
C'est un ragoût de viande, c'est un plat paysan, c'est un plat rustique, la bolognaise.
C'est ça, il faut une pâte qui tienne bien la sauce et qui est quand même lourde aussi dans l'assiette.
Quelle quantité d'eau pour quelle quantité de pâte, Alessandra?
Il faudrait 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâte et 10 grammes de sel.
C'est ça,
donc
c'est
il faut
facile.
Vraiment que les pâtes nagent vraiment bien dans l'eau, parce qu'elles ont de l'amidon donc qui va se disperser dans l'eau. Il faut vraiment qu'ils ne se raccrochent pas aux pâtes pour pas qu'elles soient trop collantes.
Et on garde toujours un petit peu d'eau de cuisson pour mettre dans la sauce des pâtes.
Cet amidon dans l'eau sert justement pour émulsionner les sauces, pour qu'elles soient justement crémeuses sans le rajout de crème.
Dans la carbonara, par exemple, pour la rendre crémeuse et onctueuse, ou dans un pesto pour le rallonger et même le rendre onctueux.
Toujours. Alors, pour le chauffer.
On le met comment, froid ou chaud, ce jus de cuisson, cette eau de cuisson? Parce qu'il y a plusieurs écoles, j'ai l'impression.
On le rajoute pendant que les pâtes cuisent dans l'eau.
D'accord,
vraiment
parfait.
Chaud, toujours chaud.
Et question sans doute ridicule, mais pour un Béarnais, je n'ai pas de culture de pâtes.
Je vous en prie.
Est-ce qu'on met de l'huile d'olive quand on cuit dans l'eau, quand on cuit les pâtes?
Non, jamais.
Il n'y a qu'en Béarn qu'on le fait.
Mais oui, ça sert à rien.
Voilà.
Ça sert à rien, en principe. Disons qu'on le met en France parce qu'on utilise des toutes petites casseroles, alors qu'il faut vraiment des gros faitous pour cuire les pâtes. Et en plus, l'huile, quand elle se colle sur les pâtes, empêche la sauce d'être absorbée. Donc, c'est vraiment dommage.
Alors, on aime les pâtes al dente, c'est-à-dire résistantes sous la dent. C'est ça, al dente, l'étymologie.
Elles sont plus digestes aussi, normalement, parce que l'amidon ne se transforme pas complètement en sucre rapide. Donc, ça reste des sucres lents quand les pâtes elles sont encore fermes sous la dent.
Alors, combien de temps de cuisson pour être al dente? Ça dépend des pâtes
ça
et des paquets.
Ça dépend du format de pâte, absolument. Mais très, très, très souvent, sauf sur des pâtes vraiment très artisanales, le temps de cuisson est indiqué sur le paquet. Si on les fait sauter à la poêle, comme on fait souvent en Italie pour bien les enrober à la sauce, on enlève une petite minute de cuisson sur les pâtes dans l'eau.
Alors à chaque pâte, son type de sauce, allez, choisissons des rigatoni qui sont ces espèces d'énormes penne, on va dire, des jolis gros tubes coupés droit.
Ça, c'est une pâte rayée déjà.
Oui.
Donc la rayure permet d'accrocher la sauce, donc c'est bien avec une sauce assez lourde et consistante.
Généreuse.
Soit avec de la viande, soit avec de la viande, des légumes, des
Bolognaise.
Ça peut être une bolognaise, une sauce à la viande, un ragoût.
Là, justement, tiens, j'ouvre votre livre vraiment au hasard, la pasta allegra, et là, je tombe sur les spaghettis au jus de veau avec des cèpes sautés.
Voilà,
c'est la saison des
ça.
Cèpes, on en parlait justement.
Absolument.
Comment vous faites ça alors?
Alors ça, d'abord, il faut un peu plus de temps pour faire le fond de veau, qu'on fait un morceau de veau qu'on laisse mijoter longtemps avec des légumes, qu'ensuite on filtre.
Bravo.
Mais c'est très intéressant pour aussi, on l'utilise les cèpes, ça sera des cèpes frais qu'on fait juste sauter à la poêle, qu'on incorpore aux pâtes, qu'elles finissent de cuire dans le jus de veau dans la poêle.
Moi j'ai une petite astuce pour ça, parce que souvent les gens bloquent un peu quand on parle de fond et de sauce, c'est vous faites un sauté de veau. Vous le mouillez abondamment, vous allez le manger, le sauté de veau un jour, et vous récupérez du jus, c'est du fond de veau.
C'est ça.
Tout simplement.
Et on le filtre.
Voilà, parce que les gens, souvent, quand on parle de sauté,
ils ont peur. Ça paraît technique, parce que dans les restaurants, c'est un peu technique.
C'est une sauce de sauté de veau.
Oh, que c'est bien ça. Maintenant que vous savez cuire les pâtes comme de vrais Italiens, amis auditeurs, eh bien, ne bougez pas, on revient avec d'autres recettes dans un instant. On cuisine les pastas ce samedi matin. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, on se régale ce samedi matin. Merci beaucoup Alessandra Pierini. Vous nous avez apporté de jolies pâtes là, avec un accompagnement fait de tomates et d'aubergines. Ça ressemble un petit peu à la caponata. Qu'est-ce que c'est que ces pâtes? On dirait des fusilli, mais coupées en deux dans la longueur.
Oui, ça ressemble.
En fait.
Ça s'appelle des riccioli chez la pâte garofalo. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des boucles en fait, qui sont coupées en deux. Le délicieux, c'est ça.
Et Laurent, des pignons de pain aussi. Hein.
Les pignons de pain,
des
ouais.
pignons et de la poutargue, râpée ouais. en fin.
Ah, c'est très, bon très ça. Bon. Qu'est-ce que c'est bon, bravo. Alors, vous avez écrit un livre avec Sonia Esgulian, qu'on aime beaucoup, qui est déjà venue nous rendre visite dans cette émission. La pasta allegra aux éditions de l'Épure. Fusionné, fromage de brebis, pain grillé et anchois, lasagne de canard à l'orange sanguine, pancetta et romarin, on en a parlé tout à l'heure. On se rend compte que c'est déclinable à l'infini, la pasta, en fait.
Absolument. Et d'ailleurs, dans notre livre, on a fait un mélange de recettes plus métissées pour Sonia, et peut-être un peu plus traditionnelles pour moi, vu les origines. Mais c'est vrai que les pâtes, on peut les accommoder vraiment comme on a envie. On peut les faire dans n'importe quelle partie dans le monde avec les ingrédients qu'on trouve sur place.
C'est universel.
Et c'est universel et très bon partout.
Et revenons sur une idée justement préconçue. Les pâtes ne font pas grossir. C'est la sauce qui fait grossir, mais ce n'est pas la pasta.
Bah oui, on essaie de faire un plat équilibré toujours. Hein. C'est pour ça, si on pense aux recettes traditionnelles italiennes du cœur de l'Italie, on mettait beaucoup de légumineuses. Avec les légumes, on faisait des pâtes dans le bouillon ou la pasta mista, comme on a donc dans le livre. Ce sont des pâtes, un mélange de pâtes de formes différentes, mais qui cuisent en même temps.
Alors moi, j'ai eu un coup de foudre pour des pâtes avec des fusionnés de pommes de terre à la moutarde.
Oui.
À la moutarde. C'est quoi les fusionnés de pommes de terre ?
Ça, le fusillone, c'est une technique qu'on fait avec un petit ustensile qu'on peut trouver partout dans la quécaillerie sur le marché. On refait des fusils, et ça veut dire la
spirales.
Forme des pâtes, des spirales comme ça, en forme
de
pommes de
terre.
Et donc, on dirait un petit peu, c'est un trompe-l'œil.
Ah, c'est
fait.
Super. Et vous les faites cuire comme des pâtes ?
Comme des pâtes,
et vous
absolument.
Mettez d'autres pâtes sèches avec ?
Pâtes sèches avec. La moutarde,
ça à l'ancienne.
Va très bien à l'ancienne.
Avec gros grain.
Et ça fait toute sorte, un petit peu de décoration.
Je trouve que la pasta, c'est vraiment le plat impeccable pour se remettre à cuisiner. C'est à la portée de tout le monde et c'est fastoche parce qu'on le décline en fonction de ses envies, Olivier Pouls.
Oui, et il y a une autre chose qui est fantastique avec le plat de pâtes, c'est que c'est un plat familial. D'abord, tout le monde, en général, aime la pâte à la maison. Et c'est le plat qu'on va amener au centre de la table. On va tous pouvoir manger en même temps. Il n'y en a pas un qui reste dans la cuisine. Et on le partage. Et ce sens du partage, le plat de pâtes, c'est vraiment magique.
Eh bien, merci beaucoup, Alessandra Pierini, d'être venue ce matin.
Très
partager votre pasta allegra aux éditions de l'Épure. Merci, Alessandra. Et à bientôt.
Merci
à bientôt.
Arrivederci.
Ciao.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bientôt midi, moins le quart. C'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, hein, vous le savez. Alors comme nous, vous aimez ses talents de conteur et sa fibre théâtrale, eh bien on le retrouve justement devant le Théâtre de l'Odéon, à Paris, au restaurant méditerranéen. Et il nous croque, écoutez bien, le portrait d'un paysan qui a compté dans son enfance. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour les jolis compagnons de table. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis plutôt un nostalgique, mais un nostalgique heureux, joyeux, à l'évocation d'un paysan que j'ai vraiment adoré parce que c'était un peu les fermes d'autrefois. Et ce paysan s'appelait Roger Friot. Il avait une ferme à Couleuvre dans l'Allier. Et cet homme-là était le voisin direct de ma grand-mère. Donc il a un peu marqué toutes mes vacances. Il marquait les saisons. C'est-à-dire qu'il faisait les foins à l'époque des foins, c'est-à-dire jusqu'à fin juillet. Il faisait ensuite le blé au mois d'août. Ensuite, il attendait le mois d'octobre pour rentrer le bois pour l'hiver. D'ailleurs, je me souviens encore de lui ramenant son troupeau le soir pour la traite où les vaches avaient encore un nom. Là aussi, quelle poésie, Marguerite, Myosotis pour le taureau, etc. Il suivait avec son bâton toujours trop grand, son chapeau de paille sur la tête et il avait cette bande de flanelle autour du ventre pour tenir au chaud son dos de travailleur des champs. Il avait l'art et la manière de nous fabriquer nos rêves, puisque dès que j'étais rentré à la ville, je ne faisais qu'une chose, je faisais Roger Friot. En plein Clermont-Ferrand, en pleine ville, j'avais des petits animaux miniatures et je reconstituais sa ferme et j'emmenais les vaches au champ, etc., etc. Je voulais prolonger ce rêve. Donc je vous en supplie, laissez-nous les rêves donnés par ces paysans de cette époque, parce que ce sont eux qui savent remettre l'église au milieu du village.
Nous sommes 100% d'accord et comme on le dit régulièrement à cette table, Yves Candebord, pas de cuisine sans paysan.
Non, il n'y a pas de cuisine sans paysan, il n'y a pas de cuisine sans bons produits. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est ces gens qui font un travail d'orfèvre, il faut les soutenir parce qu'ils sont mis en difficulté souvent. Et souvent, c'est sans aucune raison.
Eh bien, on dédie cette émission à Roger, justement, l'ami d'enfance de Jean-Luc. Bien manger grâce à des paysans rémunérés au juste prix, c'est le souhait de chacun, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, nous allons parler des cercles vertueux, notre alimentation, avec Olivier Rollinger, le chef cuisinier engagé, vient nous présenter son dernier livre. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Des bonnes adresses aux recettes de saison, en passant par l'art de la pasta à l'italienne. Nous sommes ensemble depuis 11h et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors quand on n'est pas d'accord, soit on se tait, soit on s'en va, soit on prend le donjon pour changer les choses, lui disait sa maman. Il a découvert les vertus de la cuisine après une violente agression. Il se passionne pour les fourneaux, les épices et décroche 3 étoiles avant de rendre son tablier. Son fils Hugo continue de faire flotter le pavillon d'une cuisine joyeuse et responsable sur les maisons de Bricourt en Bretagne. Il vient d'écrire un manifeste pour une cuisine de bon sens et une alimentation durable. C'est le chef breton Olivier Rollinger, notre invité. Bonjour chef.
Bonjour les garçons.
Bonjour Olivier Rollinger, ravi de vous accueillir. Vous êtes un chef engagé, je le disais. Vous venez de publier avec Isabelle Saporta chez Fayard un livre qui s'intitule « Pour une révolution délicieuse ». C'est un pamphlet, on va dire, contre l'industrie agroalimentaire. Vous pensez qu'on nous a volé le plaisir de manger, Olivier ?
On ne nous l'a pas volé, je crois qu'on l'a laissé filer. On a tous une part de responsabilité, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, nous cuisinions les uns les autres dans les familles. Et puis petit à petit, on a considéré que c'était une forme de progrès que de pousser un caddie le samedi après-midi dans une galerie marchande et de le remplir de produits tout préparés, ultra transformés. On a simplement considéré que la cuisine, à part entière, était une tâche subalterne.
Une corvée.
Une corvée. Donc il faut absolument, dans moi, ce soulèvement alimentaire pacifiste et joyeux, j'appelle à ce soulèvement parce que c'est avant tout une prise de conscience. J'ai à cœur de dire qu'il y a juste 50 ans, j'avais 14 ans, le progrès, l'objectif, c'était l'objectif Lune, la conquête de l'espace, la conquête de la Lune. Et aujourd'hui, ces mêmes jeunes de 14 ans, leur objectif, c'est de tenter de sauver la Terre. Mais la Terre, avant tout, c'est pas simplement la dimension écolo-bobo, c'est sauver le vivant.
La biodiversité.
Et c'est sauver l'humain.
Vous avez raison, c'est ce qu'on essaye de faire aussi tous les samedis.
Mais je sais bien, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup votre émission et je suis ravi d'être avec vous.
Ben on est ravi que vous soyez là. Alors justement, quel est votre goût de la semaine, cher Olivier Rollinger ?
Alors mon goût de la semaine, le 14, c'était mon anniversaire. Et mon goût de la semaine, c'est ma femme qui m'a préparé une barbue merveilleuse avec les premiers cèpes en ce moment.
Ce poisson
avec
plat.
Quelques oignons et puis des petites pommes de terre de notre champ du vent. Qui ont, et en fin d'été, comme ça, les pommes de terre qu'on a oubliées dans la terre ont une saveur sucrée. C'est mieux qu'une patate douce.
Olivier Rollinger, vous consacrez tout un chapitre au lait cru dans votre livre, au lait cru qui est bon pour la santé. Oui. Le goût, toujours le goût. Hein. Vous luttez contre cette standardisation du goût.
Mais oui, parce que si vous voulez, ce qui se passe, ce ne sont pas les politiques, ce n'est pas Bruxelles, il ne faut pas toujours accuser. Ce sont les lobbies. Et là, il suffit de prendre, par exemple, une société comme Lactalis, qui s'est totalement appropriée le lait de tout le Grand Ouest de la France. Et finalement, pour supprimer, alors on fait monter les normes pseudo-hygiénistes de bactériaux et autres, pour finalement que l'indépendant et le petit fromager disparaissent.
Alors on va en parler justement, comment trouver du lait cru, comment le cuisiner, comment le remettre au centre de la table. Eh bien vous allez passer le lait cru à la casserole Yves Condebord ce samedi matin.
Ah, je vais passer à la casserole parce que moi, fils de...
Défenseur du lait cru.
Mais surtout fils de paysan, j'ai tré les vaches à la main, j'ai tété carrément à la
bien
mamelle.
Bien sûr, au pis.
J'ai tété au pis. Parce qu'aujourd'hui, il y a une campagne contre le lait cru, mais
pareil.
C'est une aberration totale. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, faisons une campagne contre le lait pasteurisé. Alors vous avez cité Lactalis, bien sûr. Parce que le lait cru, quand ça vient d'une ferme, que les vaches, parce qu'il faut savoir quand même que les vaches, Laurent, elles sont herbivores.
Oui,
qu'on les laisse manger de la bonne herbe, qu'on les soigne, qu'on les respecte, qu'on respecte l'environnement, que le fermier respecte son travail, on a un produit d'exception.
C'est difficile à trouver le lait cru, Yves ?
Non, c'est pas difficile. À un moment donné, quand on a la chance d'avoir un bon fromager, si on lui demande une fois par semaine de faire venir 2-3 litres de lait cru, il le fera avec grand plaisir. Ils sont toujours en contact avec des vrais producteurs de fromage de vache.
Le lait cru, il n'a pas été chauffé à plus de 40 degrés. Hein, et ça n'a rien à voir avec le lait frais qu'on trouve en grande surface, qui lui déjà a subi une petite pasteurisation.
Ah, totalement. Hein. Le lait cru, c'est simplement le lait qui sort du pis de la vache et qui est réfrigéré.
Exactement.
Et qui ne dépasse pas les 40 degrés.
Ça ne se garde pas longtemps, ça, alors.
C'est, mais Laurent, 3, c'est un
jours.
Produit frais.
Oui, c'est ça.
C'est un produit frais. Comme tous les produits frais, la DLC, elle est de 3-4 jours maximum.
Là, je pense aux gens qui nous écoutent et qui sont intolérants au lactose ou qui ont du mal à digérer le lait. Quand ils vont entendre le lait cru, ils vont encore avoir plus peur.
Non, je vous raconte.
Au contraire.
Les petits Bernets à Castetis, qui est une productrice qui a 20 vaches normandes, qui transforme entièrement tout son lait, soit en lait cru, soit en fromage. Tout ce qu'elle leur donne, c'est elle qui le produit. Sa plus grosse clientèle, c'est tous les gens qui sont allergiques au lait.
C'est magnifique.
Ils viennent chez elle.
Bien sûr.
Parce que pourquoi, Laurent ? Parce qu'une fois que c'est pasteurisé, le lait, le gras avec la protéine se mélange dans le lait. Le corps humain n'arrive pas à le lire et c'est là qu'il y a un problème. Alors Laurent, j'ai été levé au lait cru.
Moi aussi.
Ma grand-mère nous disait...
Voyez le résultat,
avec,
les amis,
la peau du lait, avec la peau du lait, vous en parlez, Olivier Rollinger, de la peau du lait que vous gardiez plusieurs jours.
Mais
vous,
bien sûr, la peau du lait, on a tous des souvenirs de gâteaux, justement, faits avec cette peau de lait. Et vous savez très bien que par rapport à toutes ces maladies auto-immunes, au contraire, là, les anticorps se créent et il faut absolument valoriser. Et finalement, ça a encore été... Vous voyez, ils ont démarré très tôt cette industrie agroalimentaire. Ils ont réussi à persuader les mamans que la première chose, c'était de pouvoir avoir du lait en poudre.
Comment on le cuisine alors, ce lait cru?
Alors, le lait en cuisine, c'est quand même une des matières premières qui est essentielle. Si vous faites une béchamel au lait cru avec une râpée de noix de muscade déposée sur un chou-fleur gratiné au four, je peux vous assurer...
Une vraie béchamel, bien loin de la béchamel en brique. J'ai vu qu'ils vendaient ça maintenant, de la béchamel en brique.
Oh, mais ils vendent aussi, évidemment, la crème anglaise.
Oui,
la crème anglaise avec un lait cru, c'est une merveille. Il faut redécouvrir. Quand on pense qu'aujourd'hui, arrêtons d'enquiquiner les vaches à faire du lait pour en faire une espèce de liquide flotteux, aqueux,
c'est ça,
un peu blanchard,
que
l'on met dans des briques, qu'on peut même laisser derrière un pare-brise de voiture.
C'est
quand même aberrant. Quoi.
Qu'est-ce que vous nous avez fait, Yves Condebord?
Je me suis
amusé délicieux, ça.
Parce que tout le monde connaît le fameux riz au lait de grand-mère, tout le monde le connaît.
Oui.
Alors j'ai fait la même recette. J'ai enlevé le riz. Je l'ai fait avec des perles du Japon
c'est délicieux.
Avec du lait cru.
C'est un goût.
Et là, on a la ferme.
Ça sent la ferme, exactement.
On a du goût, Laurent.
On n'est pas dans le cul de la vache comme on aime.
Et en cuisine, à la maison, que ce soit à la maison ou dans un environnement professionnel, l'important, c'est le goût. Et là, je me suis amusé avec mon goût de la semaine. Je vous ai mis une petite compote
de pêche de vigne.
Bravo,
la boucle est bouclée. Olivier Rollinger, explorateur du goût, a passé une partie de sa vie à la recherche des meilleures épices. Il va nous aider à bien les cuisiner pour le plat du jour. Dans un instant, juste après les titres du journal de la mi-journée. Bon samedi midi, à tout de suite.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez,
3 pour 5 gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Après une balade dans les bois pour cueillir des champignons, un dossier al dente sur les pastas à l'italienne, Olivier Rollinger, le chef breton à l'abordage d'une agriculture et d'une pêche durable, nous a rejoint. Olivier Rollinger, vous avez écrit un très beau livre avec Isabelle Saporta, paru chez Fayard, pour une révolution délicieuse. Et vous faites une petite confidence dans ce livre où vous dites « Moi, le cuisinier qui a eu une étoile, deux étoiles, trois étoiles, j'ai passé ma vie, j'ai passé mon temps, j'ai raté les communions de mes enfants, j'ai raté du temps avec ceux que j'aimais. » Et vous êtes passé un petit peu à côté d'une cuisine familiale, c'est ce que vous dites, la cuisine du quotidien qu'on aime pratiquer en famille, en fait, forcément, puisqu'on ne peut pas être au four, nos et au moulin.
Oui, et puis en plus, lorsqu'on a la chance d'avoir une femme qui cuisine remarquablement bien, et qui, en général, lorsqu'on rentre dans sa cuisine, vous vire très gentiment en lui disant « Écoute, tu vas me mettre un grand bazar là. Hein. Toi, il te faut une armée pratiquement pour cuisiner. »
oui, elle se plaint du bazar, c'est ça, voilà.
Mais je m'y intéresse quand même un petit peu. Puis alors, j'ai la chance, ma fille qui est venue nous rejoindre justement pour la relation avec les 1200 petits producteurs d'épices dans le monde.
Et oui, les épices Rollinger.
Elle n'aborde pas facilement au départ la cuisine. C'est pas du tout comme son frère. Donc, c'est très intéressant de l'avoir abordé la cuisine. Et en particulier, là, en ce moment... Elle s'intéresse beaucoup aux légumes, évidemment, et elle fait un curry avec ses légumes. Elle fait tomber un oignon, une échalote dans un joli beurre mousseux, évidemment demi-sel.
Une
pointe de gingembre frais quand même. Là, elle va glisser quelques capsules de cardamome qu'elle fait revenir. Un joli trait de citron vert. Et elle va juste mettre deux tiers de lait de coco. Hein, voilà ce que j'ai amené, là, lait de coco du Sri Lanka. Et puis là, elle va mettre notre poudre des vertus. Alors, on va dire c'est un curry avec des algues.
La poudre des vertus, il y a plein de... Je l'ai vu en fabrication chez vous, dans vos maisons de Bricourt. Il est magnifique.
Mais surtout, le goût est absolument extraordinaire d'associer les épices et les algues.
Et les légumes de saison, les légumes du moment.
Et alors, à côté, on aura mis des légumes. Alors, en ce moment, par exemple, on a encore de très jolies courgettes et de belles aubergines.
Les tomates.
En fin d'été, justement, parfois de plein champ qui sont absolument délicieuses. Et là, on va simplement les mettre au four avec toujours une noix de beurre. Et puis là, on va mettre ces légumes comme ça, gentiment, à mûrir dans cette sauce de lait de coco, d'épices. Et puis là, on va évidemment rajouter un peu de douce. C'est ce qui est cette algue rouge qui a à la fois un goût iodé, mais presque un goût d'huître. Et puis, on va la laisser mijoter comme ça. On a un plat merveilleux.
Mais elle vient nous faire le plat du jour, là, voilà.
On peut laisser tomber peut-être deux, trois petites feuilles de menthe. J'aime bien aussi.
Pourquoi pas, pour la fraîcheur. Ouais. Ça vous arrive encore, j'imagine, à la maison, de vous faire plaisir avec un joli poisson. Quel poisson vous aimez cuisiner chez vous, Olivier Rollinger?
Il est déjà le plus beau.
C'est le poisson breton?
Bah, c'est le maquereau.
Ah, bah voilà, poisson de pêche
est...
durable.
Mais évidemment, c'est le plus beau. Il est bon cru. Il est bon en saumure. Il est bon grillé. Il est bon au four. Il est bon au vin blanc.
Il est bon en conserve.
Et il est bon marché. Très bon marché.
Non, c'est ça, on aime vraiment tous le maquereau. C'est un poisson,
et voilà,
un poisson bleu.
Le stock est en bon état. Il faut se régaler avec ce poisson. Et laisser de côté un peu, laisser tranquille, évidemment, les cabillauds.
Votre fils Hugo a repris les fourneaux des maisons de Bricourt, enfin du coquillage. Et quand je suis venu vous voir déjà il y a quelques temps, vous voir tous les deux cuisiner au fourneau, je vous avais demandé de vous souvenir d'une recette qui vous liait un petit peu. Et vous m'aviez parlé de crevettes en fait, ah oui, flambées avec du rhum, c'est ça?
Vous avez raison, ouais. Ça c'est les fameux bouquets. En ce moment ils arrivent, c'est les bouquets de chausset de toute la côte entre Cancale et Saint-Malo. Donc parce que l'automne, le bouquet vient... Il est toujours dans la mer, tout d'un coup, il n'arrive pas d'Angleterre à l'automne. Non, non, c'est pas ça. Il se concentre sur la tête des rochers et c'est à ce moment-là où les caseilleurs peuvent les prendre au casier. Et là, on les poêle encore toujours avec un beurre de madame salé, vrai beurre breton.
Beurre de madame qui est fait avec des vaches, vaches froment du Léon, absolument.
De Thierry le Marchand. Et puis là, on les poêle. Et là, on rajoute un peu de piment, une pointe de gingembre, toujours un zeste de citron vert. Et puis on déglace. Alors là, là évidemment, on diverge. Lui est très rhum et moi, je suis très malte.
Et ça, c'est bien. Ça voilà, une dernière question, tiens, pour nos auditeurs qui veulent faire leur placard à épices. Trois épices incontournables à avoir dans son placard.
Un grand poivre indien, le pays endémique, ça, c'est certain. Il faut une jolie noix de muscade. Et puis, j'ai du mal à sélectionner.
Une vanille, puisque la vanille
évidemment
est à l'épice.
Évidemment, une vanille, mais il vous faut aussi une jolie cannelle.
Allez, ça fait 4. Voilà, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ne bougez pas, on revient tout de suite pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 39-21. Vous le savez, le 39-21 attend vos questions. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Jean-Pierre Marielle. Mais qu'est-ce bon, qu'on aime cette voix. Voilà, merci la radio de pouvoir nous permettre d'écouter voix des voix comme ça. Merci Jean-Luc Herblade.
C'est une voix gourmande, c'est une voix suave. Je la trouve très épicée.
Mais évidemment, c'est une
mais
voix
oui,
de bon vivant.
C'est l'orgasme gustatif qui est trop proche. Donc.
C'est exactement ça. Olivier Rollinger, vous êtes notre invité et vous dites cuisiner, c'est du temps gagné pour être heureux. C'est une très belle phrase, hein, parce que tout le monde se plaint. C'est vrai que c'est terrible. Quand vous dites aux gens qui ne cuisinent pas, mais cuisiner, ah, j'ai pas le temps de cuisiner une demi-heure.
Ou je sais pas faire,
mais j'ai pas le temps, une demi-heure par jour. Eh, franchement, non, alors, on peut tous y arriver.
Vous avez la première chose, dire oui, c'est très cher, les beaux produits. La manière la plus économique de se nourrir, c'est de cuisiner.
Exactement.
Première chose. Alors ensuite, on dit, je n'ai pas le temps. Alors mettons de côté, effectivement, des femmes en particulier qui doivent élever un ou plusieurs enfants dont le lieu de travail est très loin de leur lieu d'habitation. Et ça, ce sont les héroïnes des temps modernes. Je ne sais pas comment ils font, mais tout simplement pour vivre. Mais la très grande majorité des Françaises et des Français ont le temps de cuisiner. Ils ont le temps de traîner sur
des smartphones,
sur des écrans.
Voilà.
Donc, en écoutant Europe 1, vous pouvez tout à fait cuisiner tous les soirs et reprendre. Vous avez passé votre journée assise devant des écrans avec des claviers, des machins, des trucs. Et tout d'un coup, vous allez retoucher. Mais tout simplement une pomme de terre, une carotte, un poireau, un oignon, vous allez l'éplucher. Vous allez vous faire plaisir et vous allez faire plaisir aux gens que vous aimez. Et Aristote, il dit, l'amour, c'est vouloir faire plaisir à l'autre. La cuisine est probablement le premier acte d'amour.
Yves Candebord, Olivier Rollinger, dit, il ne faut pas dissocier le bon du sain. Dans ce livre, c'est vraiment un de vos combats, partagés.
Oui, moi je pense que c'est... De toute façon, moi je dis aux gens, le plus important aujourd'hui, c'est déjà commencer à cuisiner que du frais. Il faut arrêter tous les produits qui sont transformés. Ils sont toxiques pour la santé. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait marquer, comme on marque sur un paquet de cigarettes, fumez-tu, on pourrait marquer sur certaines préparations,
bien sûr,
mangez-tu.
Trop grasse, trop salée, trop sucrée.
Ouais. Mais c'est quand même curieux que les gens, on a réussi à convaincre les gens qu'il fallait avoir une activité physique, mais on ne les a pas du tout, il n'y a eu aucune campagne pour leur dire de bien s'alimenter. Alors, il y a eu le
vous vous battez pour qu'on mette justement
beaucoup plus loin.
La cuisine et le goût à l'école, mais pas une semaine par an, hein, comme une matière première.
Mais parce qu'on doit apprendre aux enfants à s'alimenter. C'est absolument capital, d'abord pour leur santé, pour leur épanouissement, mais aussi pour la survie de notre culture.
Eh bien, on vous suit dans ce combat-là. S'il faut aller au ministère de l'Éducation...
Je vous accompagne.
Eh bien, nous serons avec vous, Olivier Rollinger. Allez, c'est l'heure de répondre aux questions que vous posez au 39-21.
Bonjour, Nathalie du Ménil-Saint-Denis. Je voulais savoir comment on peut utiliser l'agar-agar dans la cuisine, au-delà des desserts qu'on peut faire en tant que geléifiant. Si vous avez plein d'idées, ça m'intéresse. Merci beaucoup.
Ah bah alors là, vous avez un docteur en algues avec nous, Nathalie, c'est Olivier Rollinger, oui. Notre chef breton qui cuisine beaucoup avec les algues. Votre fils Hugo aussi, Olivier, cuisine beaucoup avec les algues.
Oui, oui,
beaucoup, l'agar-agar, c'est une poudre d'algues, hein.
Oui, c'est une poudre d'algues blanches, qui est un gélifiant très puissant. Mais néanmoins, la difficulté de ce gélifiant, c'est qu'il est difficile à doser. Et bien souvent à la maison, nous n'avons pas de balance au gramme près. Et pourtant, c'est au gramme. C'est-à-dire qu'on est à 2 grammes, allez, 3 grammes d'agar-agar par litre. Hey. Bon, il suffit, on parle d'une pincée, justement, lorsque l'on est à la maison, c'est en général pour un demi-litre. On met une pincée d'agar-agar, donc on emmène à température, on laisse ensuite refroidir, et là, on a un gélifiant qui est intéressant. Alors, lorsque vous faites un bouillon de légumes, simplement, il suffit de reprendre ce bouillon, de ne pas le jeter, et vous allez le gélifier légèrement, et pourquoi pas, et vous allez avoir une gelée de légumes, dedans vous allez laisser tomber quelques herbes, pourquoi pas quelques épices, 2-3 graines de coriandre, un petit cumin torréfié, et puis, et là, vous allez juste mettre à côté, peut-être, un œuf que vous allez pocher. Et vous avez une gelée très végétale, parfumée, qui a à la fois des notes potagères et au parfum d'aventure, avec simplement cet œuf mollet.
Eh bien, on prend, ça c'est bien, ça c'est une belle recette de chef. Une autre question au 39-21.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Je suis Pascal de Poitiers. Donc, je voudrais savoir comment on conserve des piments de Cayenne, voir s'il faut les faire dessécher avant de les mettre dans du vinaigre ou les mettre directement frais dans le vinaigre. Quoi. Bon, bah, je vous remercie.
Question pointue, oui. Le piment de Cayenne, parce qu'on trouve souvent séché déjà.
Hein, alors les piments, on réussit à les cultiver en France. Lorsqu'on a un piment frais, c'est comme tous les piments d'Espelette, on doit évidemment les laisser sécher au soleil dans un premier temps, mais ensuite à l'ombre, parfaitement aéré,
ventilé.
Et là, parfaitement ventilé. Alors là, on peut le conserver sec. En revanche, il me semble que l'auditeur, monsieur, parlait
du vinaigre.
Du vinaigre. Oui. À ce moment-là, on peut le mettre totalement à frais, comme un cornichon, avec un peu de thym, un peu de laurier, un peu... Alors, il y a une chose qui est intéressante toujours avec le piment. Il faut lui mettre quelques rondelles de citron, parce que lorsque vous ajoutez du citron à du piment, la perception de la capsaïcine qui donne le côté piquant et brûlant est légèrement atténuée et met en avant le parfum du piment. Parce que
c'est
un trompe-l'œil, le citron. Il y a plus de 300 variétés de piment. Le piment, c'est pas... Et puis, ce qui est toujours très intéressant aussi, c'est d'ajouter même 1 cm de vanille dans votre pickles de piment. Parce que la vanille et le piment...
Ça marche
depuis
bien.
La nuit des temps, ils poussent ensemble.
Ah, ils ont des trucs à se raconter.
Ah oui, beaucoup de choses. Ils ont une
beau,
très
ça.
Très longue histoire.
Merci
à se raconter.
Olivier Rollinger pour ce cours autour du piment de Cayenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Vous allez passer sur le grill du questionnaire des bons vivants dans un instant, Olivier. Ça va chauffer.
Ah,
comme le piment, vous allez entendre. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous les amis, nous sommes en bonne compagnie avec Olivier Rollinger, bon vivant et chef engagé. On va mesurer son coup de fourchette dans un instant avec le questionnaire des bons vivants. Juste avant, je voudrais revenir sur un de vos chevaux de bataille, vous en parlez dans votre livre, la lutte contre les pesticides. Évidemment, on avait le ministre de l'Agriculture à votre place il y a quelques semaines qui nous disait que ça lui paraissait compliqué d'aller au-delà de 150 mètres des habitations, que 5 à 10 mètres c'est suffisant. Vous n'êtes toujours pas d'accord avec cette limite-là?
Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas proposé 5 cm. Parce que 5 cm, 5 mètres, on connaît tous quand même. Il suffit à la maison de verser un arrosoir ou de pulvériser pour comprendre que
c'est
tout le monde va être touché. Donc alors, il faut expliquer à M. le ministre que ce n'est pas 150 mètres que nous voulons même. Si on n'en veut plus du tout.
Plus du tout.
On n'en veut plus du tout. On aimerait que l'agroécologie soit subventionné à la même hauteur que l'agriculture conventionnelle. On aimerait que dans les lycées agricoles, on apprenne aujourd'hui avec les connaissances. C'est pas du tout revenir au Moyen-Âge. Hein.
Non, mais il faut du temps. Vous êtes d'accord que pour
mais
cette conversion,
sûr,
pour
y a
nos
une
paysans
véritable...
qui sont malheureusement dépendants de plein de lobbies, justement, on l'a
d'accord,
vu.
Mais enfin, le temps, c'est une chose, mais l'urgence de la santé de nos enfants est, me semble-t-il,
nous sommes d'accord,
plus capitale que de préserver ce temps. Mais maintenant, on sait que c'est dangereux, donc que l'on arrête. Et on sait très bien que l'agroécologie et que toute cette agriculture, et ça permet à la culture, entre autres, permet d'avoir une production équivalente, sinon supérieure à celle d'une agriculture intensive.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même que l'État français accompagne les agriculteurs financièrement
mais,
parlant
mais bien sûr.
Parce que c'est quand même les agriculteurs qui ne roulent pas sur l'or et qui n'ont pas les moyens de tout changer le jour au lendemain.
Mais bien sûr, mais vous savez
voilà,
que
avec eux quand même.
Même ceux qui sont aujourd'hui en conversion, ils ont les aides, on leur apporte des aides minimes. Ils devraient être nettement supérieur.
Voilà.
Et en plus, ils arrivent avec un décalage épouvantable. Ils ont un problème de trésorerie énorme. Donc, c'est un véritable appel à l'agriculture et au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Économie, d'aller aider tout d'un coup, la remise en question de ce modèle agricole. Mais attention, derrière, ceux qui freinent, ce sont les lobbies, ce sont les vendeurs d'engrais, d'azote, de pesticides, d'herbicides, d'insecticides. Ces gens-là sont derrière. Vous savez, le monde agricole, c'est une variable d'ajustement. Les dirigeants de l'agro-business, les dirigeants des banques et les dirigeants des grandes surfaces, eux, ils ont toujours les mêmes marges. Et quand on pense aujourd'hui, quand on voit des grandes surfaces qui osent mettre bio à coller à leur marque, c'est absolument scandaleux. Pourquoi pas Monsanto bio aussi ? Et on le sait aujourd'hui qu'ils font 75% de leur marge sur les produits bio, et après les gens nous disent « les produits bio sont chers ». Mais c'est absolument scandaleux. Non, il faut aller aider tout le monde agricole, le soutenir. L'ensemble de la population française doit soutenir le monde agricole. C'est eux qui entretiennent le garde-manger de France.
Il faut prendre le donjon, comme disait votre maman. Hein, voilà, exactement. Le chef engagé Olivier Rollinger. Plus léger, tiens, dans votre livre « Pour une révolution délicieuse » chez Fayard, Olivier, vous consacrez un chapitre au plaisir de boire.
Mais bien sûr.
Hein, alors, c'est ce que nous aimons faire aussi ici en bonne compagnie avec Olivier Pouls. Et Olivier, eh bien, c'est la saison des guides. Vous allez nous aider à nous y retrouver justement parmi cette offre pléthorique de guides. Et notamment, on va commencer par le guide de la Revue du Vin de France auquel vous participez, Olivier.
Bah oui, je vous dois quand même l'honnêteté de dire que je participe à l'un de ces guides depuis un peu plus de 10 ans maintenant.
Une référence.
C'est le premier des guides d'auteurs de vin qui a été lancé en France. Alors, c'est pas moi qui l'ai lancé, hein, ce sont mes prédécesseurs. C'est un guide qui se veut un guide assez pointu et qui finalement a permis à des dégustateurs français de reprendre un petit peu la main alors que tout avait été laissé à un Américain, le fameux Robert Parker.
Ah bah c'est ça. Alors quel guide vous nous recommandez ? Parce qu'il y a le Bétanet de Sauve, il y a la Revue du Vin de France, et il y a même un guide sur les vins nature. Alors chacun a son guide, si on peut
oui,
dire.
Oui, ça dépend un peu de ce qu'on va chercher comme type de vin et de quel amateur on est. Alors c'est vrai que le guide Hachette, par exemple, qui est le plus populaire et le plus vendu des guides, qui est un guide plutôt grand public, qui déguste énormément de vins, n'est pas un guide d'auteur. On ne sait pas qui goûte les vins, ce sont des collèges en général, mais qui est un guide plutôt fiable. Et puis en termes de guide d'auteur, ben j'en ai deux là. Le guide de la Revue du Vin de France, bien sûr, qui consacre d'ailleurs cette année un certain nombre de vignerons en promotion, hein, comme ce que je vous ai apporté aujourd'hui, que nous allons déguster
c'est
ensemble.
C'est délicieux.
Voilà, le domaine, Vernet. Oui, absolument, c'est le domaine Vernet. C'est la Côte-Rôtie Maison Rouge,
sublime
Vernet, que je salue et qui décroche cette année troisième étoile dans le guide.
Bravo.
Guide Bétanet de Sauve, qui est notre concurrent néanmoins mis un petit peu dans le même esprit, guide aussi d'auteur. Guide assez pointu. Et puis, c'est vrai qu'il y a des niches maintenant, des amateurs de plus en plus exigeants sur des choses particulières. Et là, je vous ai apporté le Glou Guide. C'est 150 nouveaux vins naturels.
Vins sans sulfite. Hein, on parlait de la jeune génération qui est engagée pour lutter justement pour défendre la planète. Eh bien, voilà, ils sont clients de ce genre
et
de vin.
Et surtout à 15 euros, prix maximum.
La bouteille ou le guide ?
Non, la bouteille contenue dans le guide.
C'est bien, ça,
bravo.
C'est bien.
Non, mais oui.
Moi, j'ai un guide que j'adore, c'est Soif d'aujourd'hui, voilà, qui est fait par Sylvie Laugereau aux éditions de Tana.
Et Antoine Gerbel.
Voilà, et je trouve que c'est un guide justement qui est par rapport au vin propre, j'ai envie de dire, parce que nature ça m'énerve. C'est un guide qui est super bien fait.
Et bien, on retrouvera les références sur europe1.fr. Vous êtes client de vin nature, Olivier Rollinger ?
100%.
Amateur,
et
oui.
Mes enfants encore plus, et la jeunesse du monde encore plus.
Parce c'est ce qu'on disait,
c'est simplement la France. Je suis désolé, je ne suis pas du tout présenté du catastrophisme, mais vous savez que nous sommes les champions d'Europe juste après l'Espagne au niveau de tonnage de pesticides en France.
Et de sulfite.
Eh bien, le vignoble, ça représente 3% des terres agricoles.
Vous le dites dans votre livre.
Et 25% de ces pesticides vont dans les vignobles. Donc c'est un concentré.
Ça va mieux, hein. ça baisse, oui, on ça est va... de plus en plus raisonnable. Oui. Mais c'est vrai que la viticulture a été le très mauvais élève de
encore.
L'agriculture française.
Mais elle est encore.
Le débat
comment,
est relancé,
et
vous entendez.
Et comment aujourd'hui vouloir un potager bio si on sert sur sa table des vins qui sont des concentrés de résidus de pesticides.
Je suis d'accord. Soyons cohérents.
Alors là, je bois vos paroles.
J'espère que le vent aussi.
J'aime bien quand tu me vouvoies.
J'espère que la France de la restauration a entendu ça.
Olivier Rollinger, vous avez été chef 3 étoiles. On va découvrir comment vous êtes bien dans votre assiette avec le questionnaire des bons vivants. Le premier plat que vous avez cuisiné, Olivier Rollinger ?
Une crêpe. Et c'est probablement le plat le plus magique de faire tomber un liquide et d'avoir quelque chose de croustillant.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable ?
Bon, c'est sûrement les solettes dorées au beurre avec une pomme de terre écrasée du beurre que ma mère me faisait.
Les petites soles. Votre pire repas, Olivier Rollinger ?
Mon pire repas, c'est un Saint-Pierre de retour des Indes qu'une personne qui m'invitait a tenté de faire
chez
elle.
C'est votre signature.
Et c'était un désastre.
Il faut être gonflé quand même.
Il faut y aller pour faire un truc pareil.
Oui, j'aurais préféré un jambon coquillette.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer ?
Ben je le connais pas encore, mais je suis très ouvert.
Quel plan emmèneriez-vous sur une île déserte, Olivier Rollinger ?
J'emmènerais probablement ma douzaine d'huîtres, plates de Cancale.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Ben évidemment, avant tout, ma femme, mes enfants, mes amis, mon équipage. Mais je crois que j'aimerais avant tout, parce que je viens juste d'être grand-père, et j'attends que mon petit-fils Ulysse, qui a maintenant un an, ait 10 ans, et d'avoir tous ses copains, ses petites copines de 10 ans, et j'aimerais bien les inviter.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Olivier Rollinger ?
C'était des lentilles corail, algues dulcées, citron confit, et un mélange coriandre, fenouil, cannelle, gingembre.
Eh bien, on prend ça. Et le mot de la fin, F-A-I-M ?
Eh bien, le mot de la fin, je lève ma fourchette d'abord pour goûter la vie et puis aussi pour faire vaciller ces multinationales qui se sont appropriées l'alimentation du monde.
On a bien
levons nos fourchettes.
Que vous êtes au combat. Merci Olivier Rollinger pour une révolution délicieuse. Et votre fourchette, c'est joli, vous l'avez dans votre poche à la place de la pochette. Voilà. Elle ne vous quitte pas. Merci beaucoup Olivier Rollinger.
Merci.
Merci pour ce livre. Vraiment, lisez ce livre pour une révolution délicieuse paru chez Fayard. Merci Jean-Luc Herblade, Lucie Lescourou, Julien Amat à la rédaction. Merci la bande des bons vivants. Vous retrouverez les recettes sur europe1.fr. Bon week-end les amis, faites le marché, il va faire beau, la cuisine et le reste
avec
aussi.
Avec plaisir.
Bon week-end Géraldine, salut tout le monde.
Merci beaucoup Laurent, à samedi prochain donc, même endroit, même heure. Et votre journée continue sur Europe 1 avec notamment cet après-midi, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit à 15h le chanteur Pascal Obispo, l'occasion pour lui d'évoquer sa tournée. Elle reprend le 8 octobre au Zénith de Rouen. Rouen où vous écoutez Europe 1 sur 104.9 avec à suivre le journal de la mi-journée de Fabienne Lemoy. L'excellent week-end sur Europe 1.